bonsoir. Entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la notion de transfuge de classe. À l'ordre du jour ce soir, sommes-nous tous des transfuges de classe? C'est une notion qui a fait son chemin dans les sciences sociales et les médias depuis que la philosophe Chantal Jacquet a publié il y a 10 ans son livre sur les transclasses. Non que ce sujet n'ait fait l'objet auparavant d'études comme celle de Pierre Bourdieu ou de récits tels ceux d'Annie Ernaux ou de Didier Ribon, mais il a été amplifié évidemment par les succès des ouvrages d'Édouard Louis ou de Nicolas Mathieu. La semaine dernière, un ouvrage critique sur cette notion, Trahir et venger, Paradoxe des récits de transfuge de classe est sorti. Il fait suite à un autre ouvrage, il y a 2 ans, d'Adrien Nazelli. Et tes parents, ils font quoi? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. Eh bien, nous avons ces deux invités avec nous. Karine Abiven, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en langue française et analyste du discours à Sorbonne Université, membre de l'IUF, l'Institut Universitaire de France. Vous êtes spécialiste du récit et vous avez donc coécrit avec Laëlia Véron, Trahir et venger, Paradoxe des récits de transfuge de classe. À la découverte, Adrien Nazelli est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et donc auteur de « Et tes parents, ils font quoi ?» C'était chez J.C. Lattès en 2021. Enfin, troisième invité, Youssef Souidi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, économiste, chercheur post-doctorant au CNRS à l'Université de Paris Dauphine PSL et vous publiez demain « Vers la sécession scolaire » Fayard et vous pourrez parler aussi de cette question de transfuge de classe et de ses usages dans le monde économique et le monde social.
Je pense que de toute façon, on ne peut pas faire l'impasse sur tout ce qui est l'enfance et notamment l'adolescence. Et donc, il est certain que me restera toujours ce sentiment de ne pas appartenir à un certain monde. Plus, mais ça ne, je veux dire que ça n'est pas. Il faudrait pas tout le temps parler de transfuge social.
Pourquoi ? Parce que l'expression aujourd'hui est partout.
Et puis ça empêche, ça stérilise la réflexion. C'est de mettre l'accent sur le passage. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'il faut aussi regarder d'où l'on vient et de se focaliser quand même sur ces manques, sur ce qui fait que tous les hommes n'ont pas le même accès aux choses.
On a reconnu la voix de l'écrivaine Annie Ernaux en octobre 2022, interrogée sur France Inter par Nicolas Demorand. Elle venait d'être lauréate du prix Nobel de littérature alors qu'elle était issue d'une famille de petits commerçants d'Yvetot en Normandie. Elle dit qu'il ne faudrait pas toujours mettre l'accent sur cette notion de transfuge de classe. Elle vous rejoint d'une certaine manière, Karine Abiven, alors même qu'elle est une des, je ne dirais pas des cibles, mais de ceux que, ou de celles que vous regardez, comme disons, ayant utilisé ce terme peut-être à mauvais escient.
Alors à mauvais escient, je ne sais pas. Ce que vous montre en tout cas l'intervention d'Annie Ernaux ici, c'est que elle est consciente de la diffusion et de la dilution aussi de la notion, parce que d'une certaine manière, dès qu'un mot à l'origine plutôt savant, sociologique, se répand dans l'usage courant, eh bien naturellement son sens se voit dilué, parfois transformé, parfois un peu manipulé. Et probablement, Annie Ernaux, c'est sûr qu'elle.
Elle le dit en 2022.
Elle ne l'aurait peut-être pas dit en 2012, en 2005. Parce que, de fait, le mot était beaucoup moins courant. On a regardé un petit peu dans la presse avec Laëlia Véron. On a étudié des corpus de presse assez larges. Et on voit que le mot, il est utilisé dans la presse 2 fois en 2015 et 300 fois en 2022 et 300 fois en 2023. Donc, il y a une vraie extension de cette notion. Et probablement, ce que vise ici Annie Ernaux, c'est que d'une part, son œuvre, elle n'est pas seulement relative et réductible à la question du transfuge de classe. Elle parle aussi de mémoire, de féminisme, de tout un tas d'autres questions. Et que par ailleurs, il y a peut-être dans ce qu'elle dit ici, l'idée d'une héroïsation du transfuge de classe qui peut être problématique au regard des questions d'inégalité sociale qu'elle entend par ailleurs mettre en exergue.
Alors vous, c'était en 2021, Adrien Nazelli, vous êtes journaliste, vous avez senti le moment, l'air dans lequel qu'on respirait à cette époque-là. Il y avait quand même effectivement entre 2015 et 2021 quand vous publiez votre enquête sur les transfuges de classe et sur leurs parents qui s'intitule donc « Et tes parents, ils font quoi ?» Il y a quelque chose qui rend ce moment, disons, assez sensible à cette notion de transfuge de classe.
Moi, j'ai fait une enquête journalistique.
Oui, bien sûr.
Je me suis dit qu'en fait, pour traiter cette question, plutôt que de faire des récits qui peuvent évidemment prêter le flanc à la critique, c'était d'aller voir, comme un journaliste, deux parties d'une même histoire. Donc, un enfant qui va raconter son parcours, qui passe par l'école, et le parent, souvent les mères, c'est plutôt des mères qui m'ont répondu, qui racontaient elles-mêmes le parcours d'ascension sociale de leur enfant. Donc, ça permettait, si vous voulez, de se débarrasser de toutes ces questions qui entourent les transfuges de classe, qui sont celles de la trahison. Souvent, on les accuse de se regarder le nombril, d'avoir trahi leur milieu. Moi, ce que je suis allé voir, c'est en parlant à des personnes de la société civile, voilà, souvent des personnalités. Il y a Rokhaya Diallo, Aurélie Filippetti dans mon livre. Je suis allé voir leur mère et je suis allé voir comment les familles prenaient en compte cette notion. Mais Annie Ernaux, on a entendu qu'elle réfléchissait au terme dans cet extrait, mais elle m'a relu pendant que j'écrivais le livre et elle m'a écrit « En vous lisant, je suis sûre que j'aurais aimé peut-être que vous rencontriez mes parents, car c'est l'histoire de ma vie quand même, cette histoire de changement de classe, et que la transfugitivité, elle m'écrivait, est constitutive de qui je suis. »
Est-ce que cette transfugitivité peut se réduire à une notion économique, Youssef Swidi, parce que vous avez écrit un livre qui sort demain sur la sécession scolaire et les mécanismes de la ségrégation à l'école et au collège en particulier. Et on peut se poser la question de savoir comment, en tant qu'économiste, on peut lire ou entendre cette notion-là.
Oui, alors en économie, en fait, on parle pas vraiment de transfuge de classe. La notion de transfuge, elle est plutôt propre à la sociologie, voire à la philosophie, avec Chantal Jacquet, la notion de transclasse. En économie, on va plutôt parler de mobilité sociale ascendante, par exemple. Mais après, ça pose des questions extrêmement complexes, c'est-à-dire, quel est le point de départ? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le grand-père? D'ailleurs, je commence par dire le père et le grand-père, parce que l'INSEE, souvent, il prenait la profession du père, mm-hmm. ou la mère, la grand-mère. Enfin, donc, il y a déjà cette question-là. Et puis, par quelle variable on l'appréhende? Est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est les revenus? Est-ce que c'est le patrimoine? Tout ça, ça ne va pas donner forcément la même chose. Et ensuite, il y a la question du point d'arrivée aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'on regarde la situation sociale au début de la vie active, vers 20-25 ans, ou alors à 40 ans, quand on est un peu plus installé dans la vie active. Et toutes ces questions-là sont extrêmement importantes pour appréhender cette question de la mobilité sociale ascendante. Et un dernier point, c'est aussi quelle est la distance que l'on parcourt. Et est-ce que passer de employé à profession intermédiaire, on parlera ici de transfuge de classe, ou est-ce que c'est vraiment les distances exceptionnelles parcourues par les individus au cours de leur vie?
Adrien Lazelli.
Dans mon enquête, moi, comme je suis journaliste et pas chercheur, donc je dois vraiment simplifier, j'ai pris des gens qui, les parents ont maximum le bac. Donc ça m'a permis de faire le tri. Je me suis dit, voilà, dans tous les récits que j'ai, tous les récits sont importants, tous les parcours sociaux sont intéressants à étudier. Enfin, on est pour que les gens racontent leur déplacement, leur ascension ou leur descente sociale. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de central avec l'école et avec le diplôme dans cette question. C'est que quelqu'un qui a eu un diplôme, a eu une validation scolaire de l'enseignement supérieur, n'aura de fait pas la même vie que quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme de l'enseignement supérieur.
Et de toute façon, vous dites, vous, Carida Biven, et en cela vous rejoignez peut-être ce que vient de dire Adrien Nazelli, avec Laïla Véron, vous dites, c'est une histoire de récit. C'est pas forcément une histoire de mesure sociale, de passage d'une classe à une autre. C'est d'abord la façon dont les gens se racontent.
En effet, c'est l'ambiguïté du concept, puisque, on l'a dit, il part d'une notion ou d'un vocabulaire qui est plutôt savant, qui est celui de la sociologie, et il devient profane en passant dans le langage courant, et surtout en étant adossé à des narrations, des récits que les gens font d'eux-mêmes, et qui est donc fatalement un point de vue subjectif sur les mobilités sociales. Et donc, il faudrait, si on faisait un travail sociologique, comparer au cas par cas, dans les cas particuliers, qu'est-ce qu'il y en est de la réalité sociologique des parcours et qu'est-ce qui en est fait dans le récit. Mais c'est pas tellement le propos qui est le nôtre, en fait, où on a plutôt essayé de voir quel était l'intérêt argumentatif de parler de soi. C'est-à-dire, surtout dans les récits de transfuges sociaux qui entendent parler des inégalités sociales, parler des possibilités de réussite, est-ce qu'on peut parler des autres en parlant de soi, en fait? Et c'est cette ambivalence du récit de soi qu'on essaye de soulever.
C'est-à-dire le rapport du récit individuel au récit collectif.
Au récit collectif, en effet. Est-ce qu'on peut, en particulier dans une société en France aujourd'hui où les possibilités réelles d'ascension sociale par l'école, elles sont quand même réduites Est-ce que cette idée de transfuge de classe, elle ne viendrait pas populariser un peu artificiellement l'idée d'une possibilité de la mobilité sociale pour aller vite quand on veut, on peut. Voilà, c'est la récupération possible, en tout cas, des récits de transfuge de classe dans cette optique, disons, méritocratique qu'on a essayé de discuter.
Pas convaincu, Adrien Zelli.
Moi, je dis dans le livre, c'est vous qui l'écrivez, qu'il y a une grosse dizaine de récits de transfuges de classe qui ont été publiés entre 2009 et 2018, ok. Et puis, plus de 20 qui ont été publiés entre 2019 et 2023. Et vous dites vous-même, on voit que ce chiffre est finalement limité par rapport à l'ensemble des parutions des livres. Alors vraiment, j'aimerais bien qu'on revienne sur les proportions, parce que s'il y a une vingtaine de récits qui ont été publiés entre 2019 et 2023, ça veut dire qu'il y a environ 10 000 récits autres qui sont les récits des héritiers, qui sont les récits des enfants d'universitaires, des enfants de journalistes, des enfants de profs, qui ne sont pas forcément des personnes qui sont des grands bourgeois, mais qui sont des personnes qui sont nées de parents qui sont passés par le système universitaire. Donc, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a interrogé, et je pense que vous avez raison de vous attaquer à cette question, puisqu'elle est devenue très médiatique. Moi, je trouve ça passionnant. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'interroge dans le fait que ces récits déchaînent les passions, alors même que
Ils sont si peu nombreux.
Par ailleurs, des centaines de gens qui continuent de raconter la vie de leurs parents illustres, enfants de stars de cinéma, il y a des exemples tous les jours.
Oui, Karine Abiven.
En effet, il y a une disproportion qui est nette entre ce qu'on appelle le corpus quand on analyse des textes, qui est en effet réduit. On a trouvé 60 textes à tout casser, c'est pas non plus une déferlante.
Ah oui, on peut pas dire,
quand on remonte même jusqu'aux années 80. Mais en revanche, la sphère du commentaire, on va dire, ce qui est la manière dont c'est relayé dans les médias et dans le discours ordinaire, peut-être, semble en effet disproportionnée. Et on s'est interrogé sur cette disproportion en se disant qu'est-ce qui séduit en fait dans le récit transfuge. Pourquoi est-ce que ça devient, pourquoi la cote de cette expression a monté ainsi dans le discours même médiatique ou ordinaire? Les raisons de cette séduction, elles tiennent aussi à l'injonction à se raconter qu'il y a aujourd'hui dans les médias en particulier. À l'injonction aussi à mettre sur la place publique des affects.
Je ne serais pas arrivé là si,
exactement,
par exemple, c'est cette fameuse chronique, cette fameuse page dans Le Monde.
La rubrique du Monde, le tournant dans votre vie, je ne serais pas arrivé là si tel ou tel personne, tel ou tel prof, naturellement dans des récits qui mettent en scène l'école, c'est tout à fait important cette question des tournants. Et donc, on a cherché en fait quel était le ferment discursif de ce succès finalement, en effet, disproportionné.
Youssef Souidi, d'autant qu'effectivement, la progression scolaire n'est pas si simple que cela, c'est ce que vous mettez au cœur de votre travail vers la sécession scolaire, et qu'effectivement les capacités de sortir de sa classe ne sont pas si évidentes que cela non plus.
Effectivement, au début de dans l'extrait que vous diffusiez de Annie Arnaud, elle disait que ce terme de transfuge de classe posait problème parce que ça met l'accent sur le passage, mais ça peut aussi mettre l'accent sur ce qui va bien dans la société. C'est-à-dire, et votre titre, c'est « Sommes-nous tous transfuges de classe ?» Ça voudrait dire qu'on est dans une société très mobile, ce qui n'est pas vraiment le cas.
Donc... Ouais, c'est d'ailleurs un peu ironiquement ce que dit dans son livre Leïla Véron et Karine Abiven. C'est-à-dire qu'en mettant l'accent sur quelques cas de progression sociale, on oublie effectivement que la plupart des cas ne le sont pas.
Depuis une dizaine d'années, en économie, la mobilité ascendante, la manière dont on l'a définie dans les papiers de recherche, c'est généralement, moi, venant des 20% de familles les plus pauvres, quelle est la probabilité que j'arrive dans les 20% les plus riches une fois adulte. Et quand on regarde ça en France, la probabilité, c'est Louis Sirug et Gustave Kennedy qui l'ont montré pour la France, la probabilité, c'est 10%. Donc, et ça nous place pas très, enfin plutôt en
10% des personnes les 20% les plus modestes peuvent arriver dans les 20% les plus riches.
Exactement. Et donc c'est un peu mieux qu'aux États-Unis où c'est 8%, alors même que c'est le rêve américain, mais c'est bien moins que plusieurs autres pays. Ils font une comparaison internationale de leurs études, notamment en Suède, par exemple.
L'Europe du Nord, effectivement.
Où c'est bien plus élevé. Et effectivement, il y a tout un tas d'inégalités qui se créent tout au long de la scolarité, sur lesquelles on pourra revenir plus tard si vous le souhaitez, et qui font qu'il est très difficile, il y a une certaine reproduction sociale dans la société française.
Oui, et justement, qu'est-ce qui explique, puisque vous êtes journaliste et que nous sommes ici aussi, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette flambée, ne serait-ce le fait que vous ayez voulu faire vous-même un livre sur ces transfuges de classe, Adrien Ezeli, à la fin des années 2010, au début des années 2020, vous vous dites, je veux faire ça, est-ce que c'est parce que ça flatte, c'est-à-dire ça flatte l'idée que l'on a justement un pays plus méritocratique, plus égalitaire qu'on ne le croit. Est-ce que c'est parce que simplement on voit dans l'air du temps quelque chose qui nous dit on a envie d'entendre ça ?
Non, je pense que comme disait Youssef, il n'y a pas de mobilité sociale. Donc en fait, on a envie d'entendre les histoires de gens qui ont eu une forme de mobilité sociale. Moi, dans mon livre, c'est parfois des tout petits sauts. Hein, je veux dire, par exemple, il y a une des personnes dans mon livre qui est Pascaline Bonnet, qui est attachée de production ici même.
Vous connaissez bien.
Et en fait, sa mère qui était peintre en bâtiment, voilà, Pascaline, c'est pas devenu ni Rokhaya Diallo, ni Édouard Louis. C'est une personne qui travaille dans un milieu dans lequel elle se sent valorisée, un milieu qu'elle a choisi, un métier qu'elle a choisi.
Et on la salue.
Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas choisir leur métier, qui ne peuvent pas sortir de leur milieu. Donc je pense qu'il y a quelque chose pour expliquer cette vogue qui est de l'ordre du modèle. Le modèle, c'est jamais suffisant pour changer la société. On sait très bien qu'avoir des exemples comme ça, ça ne marche, ça ne suffit pas. Mais enfin, quand on voit les centaines de milliers de fans d'Édouard Louis, qui a été traduit en 33 langues, qui a été adapté 80 fois au théâtre, ou de Nesrine Slaoui, une jeune journaliste qui a écrit
qu'on avait reçu ici,
le livre Illégitime. Nesrine Slaoui, elle a des milliers et des milliers d'abonnés sur Instagram à qui elle fait aussi de la vulgarisation sur ces questions de reproduction sociale. Et donc tous ces gens-là, voilà, vous, dans votre livre, vous repérez beaucoup de critiques qui sont adressées aux transfuges de classe, mais ma critique, c'est que vous ne relevez pas tous les merci que Édouard Louis, Nesrine Slaoui et toutes ces personnes se reçoivent beaucoup.
Karine Abivane.
En effet, alors, ce qui est intéressant, je trouve, pour reprendre le cas de Nesrine Slaoui et d'Édouard Louis aussi d'ailleurs, c'est que c'est sûr que ce sont, on peut les prendre comme des exemples, ils sont exemplaires de quelque chose, ils illustrent quelque chose. Mais en fait, ils illustrent des parcours tout à fait exceptionnels qui sont après tout le produit aussi du système français. Mais simplement, est-ce qu'ils ne sont pas ce que Ferdinand Buisson appelait des exceptions consolantes ? C'est-à-dire qu'on console un système qui est foncièrement inégalitaire en mettant en relief des exceptions, d'une part. Et d'autre part, le mot d'exemplaire, il peut être aussi compris au sens de donner l'exemple, d'être au sens de l'émulation. Donc ça peut être intéressant. Et en même temps, quand on regarde comment c'est fait dans les termes, ça reprend souvent un peu les termes du coaching. Ça va être de l'injonction, reste pas à ta place, quand on veut, on peut. Et ça, c'est quand même
traverse
aussi...
Il y a du boulot de l'autre côté.
C'est aussi, on va retrouver des formes de phrases, du vocabulaire qui est aussi le vocabulaire néolibéral de l'agilité sociale, faut s'adapter, etc. Alors,
la plupart des gens quand même critiquent énormément le système reproduit.
Ceux qu'on connaît, Édouard Louis, effectivement, Didier Ribon et Annie Ernaux, ne sont pas vraiment dans l'idée que la société libérale permet à chacun de progresser socialement.
Mais même Nesrine Slaoui, Rokhaya Diallo aussi, ils commencent tous par rappeler, c'est des auteurs post-Bourdieu, ils ont tous lu Bourdieu en fait. Ils savent bien que l'école c'est aussi un fort outil de reproduction et de consolidation de l'ordre établi. Donc ils commencent par dire on ne veut pas servir d'alibi. Et en même temps, derrière, il raconte, en fait. Il raconte une exception. Donc, cette espèce de paradoxe où on se demande à quel point le récit transfuge de classe, il ne peut pas être manipulé par une idéologie méritocratique libérale.
18h38 sur France Culture. Vous pourriez faire de la radio, puisqu'on va écouter tout de suite la voix de Pierre Bourdieu.
En général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social. Ce qu'on ne voit pas, c'est que précisément, je suis... ce qui fait problème, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux. Quand je suis entré à l'école normale, il y a deux moments, c'est quand je suis entré à l'école normale et quand j'ai été nommé au Collège de France. C'est les deux moments où je me suis senti... paralysé par une sorte d'infamie, c'est très bizarre, je me sentais formidablement mal, parce que à la fois j'étais donc miraculé, et les miraculés, on leur demande de dire tous les jours merci du miracle. Enfin, bon, donc à qui pouvais-je dire ça? Alors j'avais un sentiment très 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 bizarre, et en même temps très très refoulé, parce que la force du système scolaire est si grande que quand je prenais le train pour retourner dans le Béarn, arrivé à Mont-de-Marsan, je pouvais plus supporter, ça me rendait fou, rien d'entendre les gens, l'accent, c'était une espèce de vulgarité, enfin, bon, je sentais du dedans. Alors tout ça a été extrêmement difficile pour moi. Il est vrai que la sociologie, ça n'a rien à voir avec le ressentiment, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et je trouve que les gens qui ont le privilège d'être nés au bon endroit pourraient au moins fermer leur gueule quand ils aient ces choses-là.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
C'était évidemment Pierre Bourdieu dans l'émission Le Bon Plaisir, l'excellente émission Le Bon Plaisir sur France Culture en 1990. Les gens qui ont la chance d'être nés au bon endroit devraient fermer leur gueule. Qu'est-ce que vous en pensez, Sakarina Buven?
Eh ben, il parle beaucoup de lui, Bourdieu, dans cet extrait, presque plus qu'il ne le fait. Même
dans
si
ses
on,
livres.
On le voit obliquement dans ses livres, mais il parle très, très directement de l'insécurité culturelle et linguistique qu'il a ressentie venant de son Béarn natal en arrivant à l'université, la peur du ridicule, le conflit de loyauté... Et un peu la honte aussi du milieu d'origine. Donc c'est en acte, les affects transfuges, là, il nous les raconte directement, y compris aussi cet indicible social qu'il a contribué au mettre au jour avec la violence symbolique. C'est-à-dire tout ce qu'on lui renvoie de l'absence de maîtrise des codes, etc., qu'il a vu en miroir dans le regard des autres.
Youssef Swedi, justement.
Oui, bah, cet extrait, il reste très actuel, puisqu'il parlait de son entrée à l'École normale supérieure. L'école normale supérieure, aujourd'hui, les écoles normales supérieures plutôt, aujourd'hui encore, c'est 2% d'enfants d'ouvriers, encore très récemment. Et puisqu'il y a toujours cette question de reproduction sociale très forte, d'inégalité qui se crée tout au long du parcours scolaire. Donc déjà, dès l'entrée en CP, on voit que selon le milieu social, on n'a pas les mêmes compétences scolaires. Mais il y a également des inégalités dans les conditions de scolarisation. Là, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis en ce moment remet le...
On a fait une émission la semaine, il y a deux semaines maintenant sur ce sujet.
Et je l'avais écouté et ça remettait bien en avant toutes ces questions-là. Le fait que dans ces établissements qui sont extrêmement défavorisés socialement, vous avez plus de mal à remplacer des professeurs. Que vous avez des équipes d'enseignants plus stables, moins stables. Vous avez aussi dans ces établissements plus de problèmes de discipline parce que vous concentrez la difficulté sociale et scolaire et c'est autant de temps en moins qui est consacré aux apprentissages. Et donc on a toujours cette question de reproduction sociale qui fait que si même si Bourdieu était entré aujourd'hui à l'école normale supérieure, il aurait toujours ce sentiment de décalage avec son environnement social.
Adrien Azili.
Bah, moi j'ai l'impression quand même que ça nous montre aussi que c'est foncièrement l'école qui crée le transfuge de classe. Moi, j'ai envie de les appeler autrement, parce que personne n'aime ce terme. J'ai interviewé Édouard Louis récemment pour une...
Pourtant, vous en avez donné votre vous avez donné
le
sous-titre.
Parce qu'on n'a pas, mieux. Moi, je vais dire les premiers diplômés. Je trouve ça sympa, parce que, enfin, me concernant, ça sera sûrement débattu, mais c'était l'angle que j'ai choisi dans mon livre. Premiers diplômés de leur famille. Bon, moi, c'est clair, il n'y a pas de notion de trahison derrière, c'est factuel. Et je pense que ça crée fatalement quelque chose. Qu'on devienne un écrivain connu, ou qu'on devienne attaché de production, ou qu'on travaille dans une banque, ou qu'on ait, enfin, en tout cas, qu'on ait choisi un métier qui soit rémunérateur et qui soit valorisé socialement, je trouve que quand même, ça change fatalement le rapport qu'on a à la société et les transfuges de classe que vous analysez dans votre livre, qui racontent leur vie dans des romans, dans des récits, ont été aussi façonnés par l'école. C'est-à-dire qu'on voit bien à chaque fois que Annie Ernaux commence un livre par l'obtention du CAPES, Édouard Louis, si on le lit bien dans son premier livre, il dit que pour échapper à l'homophobie, c'était l'école qui était son sanctuaire. En fait, il l'écrit, il dit « dehors j'étais en danger ». Dans la classe, j'étais en sécurité, parce que dehors, son livre commence par un tabassage homophobe. Donc Édouard Louis, c'était aussi quitter son milieu pour sauver sa peau, et l'école qui apparaît comme une espèce de cellule protectrice, de sanctuaire, qui va permettre à des gens de quitter leur milieu. Il y a des raisons aussi au départ de son milieu, et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu d'aborder quand on se focalise sur les récits de transfuges de classe et leurs paradoxes. C'est que souvent, il y a quand même une raison, en tout cas chez lui, d'avoir quitté son milieu.
Mmh. Karina Biven, est-ce qu'on peut dire que... Parce que à vous écouter, on voit d'où vous pensez. On voit que vous pensez plutôt de la gauche en vous disant, eh bien, tout compte fait, ce que je vois, c'est qu'on met en avant des individualités alors qu'on pourrait mettre en avant justement une progression, disons, de classe, mais de classe collective. Et donc, ça masque les inégalités scolaires. Vous nous disiez cela tout à l'heure. Mais tout compte fait, vous rejoignez un sociologue qui s'appelle Gérald Bronner, qui dans son récit lui-même de sa progression sociale, et qui lui plutôt classé au centre, plutôt à droite de l'échiquier politique, dit « moi je veux pas, dans son texte des origines, je refuse d'avoir honte, je n'accepte pas la figure du héros social, et je n'accepte pas cette figure parce qu'il est victorieux dans le récit contemporain, mais il continue à souffrir ». Qu'est-ce que vous dites justement de ces deux regards différents placé à deux endroits du spectre politique, pourrait-on dire, sur le même phénomène.
En fait, on a plutôt essayé de faire l'inverse de ce que fait Gérald Bronner.
Bah, c'est pour ça que je vous dis ça.
En montrant justement que c'est ce qui est singulier, d'ailleurs, c'est que lui-même, tout en disant qu'il ne va pas faire de récit personnel et qu'il réfute un peu de re-raconter sa destinée à l'aune de cette notion de transfuge de classe, il fait quand même, d'une certaine manière, son récit de transfuge de classe, avec la place de l'école qui est tout à fait importante. Et alors, simplement, c'est vrai qu'il réfute les affects négatifs. Il parle beaucoup.
Il ne peut pas passer comme une victime ou quelque chose comme ça.
Voilà, il parle beaucoup de dolorisme et insiste sur le fait que les récits de transfuges de classe seraient marqués majoritairement par le dolorisme. En fait, nous, on montre aussi qu'il y a d'autres récits qui sont aussi consacrés à dépeindre une culture populaire qui ne se consacre pas, enfin, qui ne passe pas essentiellement par la honte, etc. Récemment, il y a Laurie Saint-Martin, Marie-Hélène Lafont. Même si elle réfute l'analyse des transfuges de classe, elle passe aussi dans de l'autofiction elle raconte aussi
il faut d'ailleurs lire son excellent livre Les Sources qui est sorti l'année dernière.
Voilà, elle parle aussi d'un lieu social à un autre, donc c'est pas non plus un carcan narratif qui est figé. Et on a aussi analysé d'autres types de récits, qu'on appelle parfois les récits populistes, au sens où ils traitent du peuple, comme par exemple un très beau livre de Dany Zan qui s'appelle Les garçons de la cité jardin, et qui traite vraiment d'une société, d'une culture populaire avec ses normes propres et qui là met en avant beaucoup la fierté et pas du tout la honte justement. Donc on a voulu aussi donner à lire d'autres manières d'aborder cette question et pas se focaliser justement sur cette
Adrien, c'est assez drôle et je pense que Youssef pourra nous y en dire un mot parce que si je t'ai bien lu au début du livre, il y a quand même cette idée de voilà, ne pas trop raconter sa vie, ne pas faire de soi un exemple, ne pas sombrer dans le narcissisme, ne pas se regarder le nom.
Alors c'est un peu contradictoire parce que quand même un des exercices principaux de l'université aujourd'hui, c'est de se raconter, en particulier avec ces essais que l'on fait d'égo-histoire, par exemple, oui. Quand on est historien, et quand on veut passer une habilitation à diriger des recherches, il faut se raconter pour pouvoir montrer son propre parcours.
Non mais moi je pense qu'il y a une sorte de gêne inconsciente avec la mobilité sociale ascendante. En fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a des centaines d'héritiers qui continuent d'écrire leur vie. Parfois, on se moque un peu d'eux en disant « Bon, on n'avait peut-être pas besoin d'avoir encore un livre sur ce fils de grand réalisateur. » Mais, je veux dire, on n'analyse pas leur paradoxe en permanence. Là, il y a une sorte de transfuge bashing que j'avais déjà repéré beaucoup d'occurrences dans la presse, mais grâce à votre livre, Karine, j'ai pu en découvrir d'autres. Sur cette chaîne, enfin, je veux dire, Guillaume Erner fait un billet humoristique qui était assez drôle, mais dans lequel il dit finalement.
C'est très drôle, les
filles. Très drôle. Il dit finalement, aujourd'hui, il vaut mieux être un transfuge de classe qu'un héritier. Il dit le terme de Nepo Baby qui a été employé sur les réseaux sociaux aux États-Unis pour dénoncer les enfants du star system qui deviennent eux-mêmes des stars. Et il disait, il vaut mieux être un héritier qu'un Nepo Baby aujourd'hui. C'est devenu tellement à la mode d'être un transfuge de classe qu'on trouve plus de travail quand on est un transfuge. Bon, on va lui laisser ce trait d'humour. Il y a Léa Salamé qui dit que c'est une mode, Olivia de Lamberterie qui dit qu'on n'en peut plus des transfuges de classe, enfin, et Sonia Kronlund dans son émission qui dit le narcissisme des transfuges de classe. Donc quand même, on assiste à un énorme bac.
Et vous dites que le livre de Karine Amivin et de Laïla Véron peut entrer là-dedans?
Moi, je vois en tout cas que vous posez la question, parce que dans le livre, vous dites on peut prêter, on peut donner, vu que c'est critiqué par la droite et par la gauche, cette notion, vous dites on a peur, parfois, on va prendre des pincettes, parce qu'on a peur finalement de donner des arguments à la critique de droite, qui serait une critique anti-sociologie, anti-récit.
Youssef Souili, qu'est-ce que vous...
Ce contraste entre... comment dire, on entend trop parler de ça et comment dire, la réalité que l'on voit dans les chiffres de cette faible mobilité sociale est assez amusante à entendre. Par exemple, la manière dont on va mettre en scène ces mobilités ascendantes dans les grandes écoles, par exemple, c'est avec cette figure du boursier. Vous savez, la figure du boursier qui était très présente dans l'histoire républicaine.
À Sciences Po, aujourd'hui encore, dans les grandes écoles.
Or qu'aujourd'hui, ça ne veut plus du tout dire la même chose, le boursier. Le boursier, aujourd'hui, ça va jusqu'aux classes moyennes. Vous avez 37% de boursiers dans l'enseignement supérieur français aujourd'hui. Si vous prenez la part des ouvriers et des employés, c'est 27%. Donc ces 10 points-là, qu'est-ce que c'est? C'est des classes moyennes. Et c'est peut-être bien que les bourses soient étendues aux classes moyennes, mais ce mythe du ce terme de boursier ne correspond plus à la réalité qu'elle était auparavant. Et vous avez cette mise en avant là par les établissements d'enseignement supérieur, notamment les grandes écoles, de cette figure du boursier. On affiche les taux de boursiers qu'on a. Alors même que la réalité, c'est que, encore une fois, la reproduction sociale reste très forte aujourd'hui.
Karine Amivan.
Bah, pour revenir
je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit tout à l'heure que Gérald Bronner était plutôt classé au centre ou au centre droit. Il se dit lui-même de gauche, je crois.
Oui,
donc,
oui, voilà. De fait. Mais alors, justement, sur la différence, pour dire un dernier mot sur peut-être la différence justement de point de vue entre lui et notre livre, c'est qu'il en vient à dire que lui préfère valoriser la fierté à la honte, qu'il faut être fier d'un parcours de réussite, etc. Donc, ce que, évidemment, on ne réfute pas ce serait ridicule. Et d'ailleurs, les mots de trahir et venger, qui sont des citations qu'on a choisies en titre, ou de la honte, c'est des mots fort violents qu'on trouve plutôt en littérature que dans les témoignages. Les témoignages, ils vont dire leur fierté, qui est celle des parents et qui est souvent celle des enfants, d'avoir dépassé, au bon sens du terme, la situation des parents. Mais en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que trahir, par exemple, en littérature, c'est souvent un sens qui est presque métaphorique. Annie Ernaux, quand elle l'écrit dans La Place, elle cite Genet, écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi.
Venger, c'est elle qui le dit d'ailleurs.
Venger, c'est elle aussi la première. Hein, venger sa race pour venger sa classe. Mais en réalité, c'est des mots qui sont assez forts, assez violents. Mais quand on regarde le détail des textes, on voit que c'est plutôt l'image de la réconciliation, l'image du don. Dans Une femme, elle écrit « Est-ce qu'écrire, c'est pas une façon de donner comme sa mère lui donnait ?» Écrire, ce serait une façon de donner et pas tant de trahir finalement. Donc la radicalité aussi des récits littéraires, elle est peut-être moindre que ce que les mots veulent bien dire.
Est-ce que tout de même, il n'y a pas une difficulté à voir énormément de gens se saisir de cette notion pour dire « mon grand-père était agriculteur », d'ailleurs je pourrais dire « mon grand-père était agriculteur », mon père l'était aussi, mais voilà, et pour autant ne pas se sentir en tant que transfuge de classe, parce qu'on sait très bien qu'entre le grand-père et soi-même, il y a une ascension sociale de ses propres parents, par exemple, qui ont pu vous permettre de sortir justement de cette classe défavorisée, Adrien Nazelli. Il y a tout de même cela qu'on entend partout, « mon grand-père était ouvrier », etc., etc.
En tant que journaliste, moi je trouve ça très important de rappeler le métier des parents des gens qui parlent, oui, de nos invités.
Mais des grands-parents.
Et voilà, et donc en gros, si on rappelle le métier de leurs parents, moi ça met tout le monde d'accord. Par contre, si on laisse les gens dérouler leur narratif, leur storytelling, tout le monde raconte sa vie. Moi j'encourage les gens à écrire des livres sur leurs grands-parents. Mais par contre, c'est vrai que dans la presse, on laisse très souvent des gens, et quand je dis des gens, c'est des gens à qui qu'on met en lumière, des vedettes, des responsables associatifs, des politiques, on les laisse en fait s'inventer eux-mêmes une sorte
une généalogie,
de progression sociale. Et moi je trouve ça très important, d'autant plus que c'est pas un secret de dire quel était le métier des parents. Donc voilà, quand on dit à l'école, oh là là, c'est stigmatisant de mettre le métier du père et de la mère. Non, pas du tout, c'est purement factuel.
Oui, Karine Amivan.
Mais c'est vrai que si le mot classe perd le père de son sens un peu précis, ça contribue à dérégler la boussole de notre conscience sociale, d'une certaine manière, si ça veut tout et rien dire. Et je pense que quand Annie Ernaux le dit dans Le Monde en 2021, on est des millions, peut-être des milliards à être dans mon cas, alors déjà, on se demande du coup que veut dire classe en pareil cas, et peut-être que pendant, oui, les gens nés pendant les Trente Glorieuses, les parents font un premier pas et puis ensuite les enfants poursuivent la route, mais il n'y a pas une amplitude sociale de la mobilité sociale qui est exceptionnelle. Donc c'est voilà.
Et pour vous, Youssef Souili, qui regardez ça en tant qu'économiste, justement, avec cette différence entre le discours et la réalité sociologique, pourrait-on dire, même économique, que vous pouvez noter.
Alors, je vois que la figure du grand-père, elle est bien commode, puisque aujourd'hui, dire mon grand-père est agriculteur. C'est l'anniversaire de la mort de Pompidou. L'année dernière, on reparlait de ça, de cette trajectoire exceptionnelle.
Il avait fait Normal Sup.
Et son père était instituteur, il avait écrit un livre, il me semble, déjà. Donc, enfin, mais on parlait de son grand-père agriculteur. Mais en fait, c'est bien commode, puisque la structure de la population a tellement changé au cours des 50, 60 dernières années.
Il faut rappeler que c'est en 1931, je crois, que la population française est minoritairement issue de l'agriculture, et que jusqu'en 1931, la moitié de la population française travaille à l'agriculture.
Et alors qu'aujourd'hui, on doit être à 2-3%. Donc, si on prend le grand-parent, effectivement, nous sommes tous des transfuges de classe, plus ou moins.
Oui, Karine Abbé.
La question aussi, c'est de savoir, est-ce que c'est une identité sociale d'être transfuge de classe? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est plutôt tourné vers le passé? C'est la situation sociale de ses parents. Est-ce qu'on peut la récupérer par des affects, de la mémoire personnelle? Mais est-ce qu'on peut avoir une identité qui est hybride? Le mot hybride, il revient souvent. Est-ce qu'on peut être à la fois dans une classe et dans une autre? Et du coup, est-ce qu'on peut, dans un récit, faire valoir des affects qui sont des souffrances avant tout vécues par les parents.
Est-ce qu'il y aurait une honte à se dire fils de bourgeois, petit-fils de bourgeois, au point qu'on aille chercher justement des classes sociales défavorisées comme ancêtres.
Bah, je sais pas. En tout cas, oui, ils ont peut-être honte parce que souvent ils essayent de le cacher.
Enfin, oui, non, mais c'est ça.
Moi, c'est ce que je posais cette question aussi dans le livre, parce que tout à coup, ça deviendrait parce que le mérite prend une place tellement importante dans le narratif, même du gouvernement. Le mérite est partout. Donc, si on apprend tout à coup que
on devient on est écrivain, un méritier,
mais que son père était aussi écrivain. C'est pas un miracle, voilà, si on apprend que un écrivain a enfanté un écrivain. Bon, le livre peut être très bon, mais c'est pas un miracle en tout cas.
Ouais,
mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même cette idée tout le temps qu'on nous ramène au fait que les transfuges auraient radicalement quitté leur milieu. J'entends souvent dire comment ces gens peuvent-ils encore prétendre prendre la parole au nom des classes populaires alors qu'ils ont quitté leur milieu. Mais qui dit ça? Qui dit que les transfuges ont quitté leur milieu? Enfin, je veux dire, moi, les 15 personnes que j'ai rencontrées dans mon livre, les 15 familles, sont encore extrêmement soudées. C'est juste que les enfants ont, par leur diplôme, accédé à d'autres sphères sociales qui sont encore une fois valorisées par la société, qui leur apportent de l'argent, mais qui sont encore très proches de leur famille, de leurs parents. Ils font encore toutes les fêtes, les anniversaires, ils vont voir leurs parents vieillir. Ils sont encore dans cette réalité sociale-là. C'est pour ça que je pense que la position de transfuge de classe, en dehors des récits, si on parle de la société civile, elle est politiquement intéressante, parce que c'est des gens qui, de fait, connaissent deux réalités sociales et qui peuvent peut-être essayer, dans leur monde d'arrivée, de faire bouger les choses.
Ce sont les Janus du monde contemporain, ils regardent devant et derrière. Youssef Souedi.
Moi, ces récits, je les trouve très intéressants à lire. Par exemple, celui de Nesrine Slaoui, Illégitime, elle revient sur toutes les difficultés scolaires qu'elle a. Elle a une lecture un peu sociologique de son parcours. Mais c'est vrai que ces récits peuvent être utilisés en étendard pour cacher l'état de la reproduction sociale aujourd'hui. Et par exemple, il y a un rapport qui est sorti, publié par l'Institut des politiques publiques il y a quelques années, qui montrait qu'au cours des 20 dernières années, le recrutement social des grandes écoles était resté extrêmement stable. C'est-à-dire plus de 80% d'élèves issus de milieux sociaux très favorisés.
Oui, ça veut donc dire aussi, d'une certaine manière, qu'en valorisant justement ces figures de transfuges, on oublie la masse de ceux qui n'arrivent pas à sortir de leurs conditions sociales. Et c'est ce que vous regrettez dans ces récits, par leur usage, moins par ce qu'ils en font les auteurs, mais l'usage qu'on en fait.
C'est ça, Carine, on ne peut pas reprocher à un récit de soi d'être un récit des siens et de son milieu d'origine. En revanche, on peut commenter le fait que certains récits de soi fassent particulièrement l'objet d'une spectacularisation autour de certains auteurs qu'on va mettre en lumière et de fait qu'ils sont peut-être construits par le discours médiatique comme des alibis à des inégalités cachées.
Alibis ou rôle modèle, Adrien Nazelli? C'est-à-dire, on sait très bien que pour beaucoup de gens qui se sentent dominés dans la société et qui le sont, il y a cette volonté d'aller chercher des rôles modèles pour dire, voilà, je vais me sortir de là où je suis parce que je vais regarder quelqu'un qui me sert d'étendard, justement. Mais ça peut avoir une utilité d'avoir un étendard.
Oui, en tout cas, je pense que moi, j'encourage encore la publication, l'écriture de...
Et qu'il y en ait plus que 20 dans les
peut-être,
trois dernières années.
Voilà, avec une sorte de... D'abord, il faudrait lire le livre de Carine Abivin, Trahir et venger, pour ne pas tomber dans les écueils et tous les paradoxes. Mais vraiment, je pense qu'on a besoin de plus de récits de ces personnes qui connaissent plusieurs milieux sociaux et peut-être un peu moins de ceux qui viennent de là-haut.
Merci à tous les trois. Eh bien, on va lire effectivement ce livre, Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe, avec cette grille de lecture que vous avez fournie tous les trois. C'est à la découverte. On peut lire ou relire le vôtre, Adrien Nazelli. Donc, Et tes parents, ils font quoi? C'est chez J.C. Lattès, c'était il y a 2 ans. Et lire votre livre qui sort demain, Youssef Souedi, sur l'école, vers la sécession scolaire, avec pour sous-titre Mécanique de la ségrégation au collège. Merci en tous les cas d'être venu pour ce temps du débat. C'était le temps du débat préparé par Roxane Poulain, Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sevno, Bruno Barada, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Olivier Arnet.